Jennifer Jules, merci de m'accorder quelques instants dans le cadre de l'émission Vécue. C'est un plaisir de vous rencontrer dans ce lieu qui n'est pas commun pour moi, sur une plage martiniquaise. Expliquez-nous où nous sommes.
Bien, nous sommes ici dans la ville de Rivière-Pilote. C'est une ville du sud de la Martinique. Et précisément, là, nous sommes sur la plage de Lancefiguier, qui est une des plus belles plages de l'île, donc située au sud.
Une plage normalement très fréquentée, évidemment, ce soir, beaucoup plus tranquille.
Tout à fait. Donc c'est une plage très fréquentée le week-end par nombre de Martiniquais. Et en cette période de haute saison touristique, par beaucoup de touristes. Et donc il est d'ailleurs très remarquable de voir que la plage soit aussi calme comme elle l'est ce soir.
Simplement bercée par le bruit de la mer.
Tout à fait, tout à fait.
Vous êtes un vrai Martiniquais, vous êtes né ici, vous avez vécu ici.
Oui, je suis donc Martiniquais, je suis né dans la ville du Robert, qui est une ville située au centre-est de la Martinique. Et depuis quelques années, je suis maintenant au Marin, dans le sud de la Martinique. D'ailleurs, pas très loin d'ici, à quelques dizaines de minutes de cette plage.
Où vous vivez avec votre famille.
Voilà, où je vis avec ma famille.
Même si vous êtes martiniquais, marié, père de famille,
oui.
Professionnellement engagé et quelqu'un, on peut dire qu'il y a certains succès, on peut dire que tout ça, ça vous définit seulement partiellement. Peut-être une des choses les plus importantes, si pas la plus importante de votre vie, c'est que vous êtes aussi quelqu'un qui a une vie spirituelle profonde.
Oui, j'ai une vie spirituelle très profonde que je qualifierais tout simplement de... Je vis.
Vous vivez ce que vous croyez.
Voilà, je vis. Je vis la vie de... Je veux vivre la vie de Jésus. Ce n'est pas... je ne considère pas ma vie spirituelle comme un département, comme une chambre de la maison, mais c'est vraiment la maison. Et c'est ce qui me porte. C'est ma vie et je veux traduire ce vécu dans tout ce que je vis, professionnellement, dans la famille.
Ça imprègne tout ce que vous vivez.
Oui, oui. Et je crois que celui qui rencontre le Christ, il doit permettre en fait à Christ d'être partout avec lui.
Alors, vous avez employé une expression, vous avez dit celui qui rencontre le Christ.
Oui.
Vous m'avez expliqué que vous êtes d'une famille quand même chrétienne, vous avez connu... la Bible, l'Évangile, le Christ depuis tout jeune.
Oui.
Pourtant, vous situez à un moment dans votre jeunesse la rencontre avec le Christ.
La rencontre, oui.
Racontez-nous.
Oui, je me suis donc fait baptiser à l'âge de 8 ans, où j'ai vu un message écrit dans une église. Celui qui se fera baptiser, celui qui croira se fera baptiser et sera sauvé. Et j'ai dit à ma maman, je crois. Et qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Elle m'a dit absolument rien. Et donc j'ai suivi la classe baptismale où on reçoit justement des études bibliques pour mieux comprendre
l'enseignement
de base. Et donc je me suis fait baptiser à l'âge de 8 ans. Et donc bien sûr, j'ai grandi avec cette éducation spirituelle dans un cadre familial et aussi de l'église. Mais j'ai une véritable rencontre avec le Seigneur à travers sa parole, parce que j'ai voulu m'appuyer sur du concret. Une fois qu'on sort de l'église, qu'on a passé le cap de l'adolescence et tout, on prend conscience de certaines choses, et on a besoin de s'affermir, d'être établi sur de véritables bases. On n'est plus dans le soutien des autres.
Il vous fallait une foi personnelle.
Une foi personnelle, ancrée sur bon, sur la vérité bon, du Christ qui est vivant et qui, bon, qui doit être dans, pleinement dans ma vie.
Et alors, là, vous avez devant vous trois livres.
Oui.
Et je sais que ces trois livres ont été un facteur clé, justement, oui, dans cette découverte.
Oui.
Vous pouvez nous les présenter ?
Oui. Donc, ces trois livres, justement, m'ont permis de rencontrer la personne du Christ. Il y a un autre texte de la Bible qui m'a interpellé, parce que j'étais déjà plutôt engagé avec le Seigneur. Et j'ai lu dans la parole, mais que sert-il à un homme de gagner le monde si lui-même il perd son âme ? Et j'ai compris qu'il est important de connaître véritablement le Christ, de le rencontrer avant de le partager avec d'autres. Et d'entrer dans cette parole de l'apôtre Pierre qui dit si vous n'êtes pas affranchi, si vous n'êtes pas libre, comment pouvez-vous prêcher la liberté à d'autres ? Et j'ai découvert la personne du Christ dans le livre Jésus-Christ.
Ce livre intitulé Jésus-Christ,
oui,
que vous avez lu.
Oui, que j'ai lu.
Avidement.
Ah oui. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture parce que j'ai pu rencontrer véritablement le Christ dans les différentes situations, dans sa vie sur la terre, dans son approche avec les autres. Et j'ai pu apprécier ce Jésus que j'entendais parler, que j'ai même prêché, mais j'ai voulu le rencontrer personnellement.
Donc le livre Jésus-Christ est un commentaire de l'Évangile.
Un commentaire de l'Évangile, tout à fait. Hein, de Madame...
D'Ellen White.
Aussi, un autre livre qui m'a bousculé, c'est le livre Premiers Écrits, que je recommande d'ailleurs, toujours du même auteur. Et bon, j'ai découvert un contenu poignant qui m'a vraiment littéralement amené à une conversion.
Un livre qui parle vraiment de la préparation pour la rencontre avec Dieu.
Pour la préparation avec Dieu. Et bien sûr, la Sainte Bible. La Sainte Bible.
Alors, j'allais vous dire, ce sont des beaux livres, mais est-ce que la Bible elle-même a été un déclencheur ?
Ah oui, la Bible a été véritablement un déclencheur. Notamment le livre de l'Évangile selon Luc, qui m'a permis là de vraiment être en contact avec la personne du Christ. Et en lisant le livre de Luc, j'ai vécu l'expérience de la parole faite chair. Et cette parole que j'avais entre les mains, j'ai vécu réellement cette approche de la personne du Christ qui me parlait, qui a apporté ce toucher, cette transformation dans ma vie et m'obligeant à prendre de nouvelles résolutions et à changer vraiment de cap dans ma vie. Parce que si je ne vis pas ce que je prêche, je suis un menteur. Et il est important de vivre le message. Et je crois que le Christ lui-même, il a été son propre message. Et s'il n'était pas en accord avec ce qu'il disait, je n'aurais pas cru. Mais il est important de vivre ce message et de le porter avec assurance. Parce qu'à ce moment, on n'est plus dans le doute, on n'est plus dans une projection, mais on est dans un vécu et dans un témoignage.
Vous dites assurance, et justement, oui, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé dans l'Évangile, c'est que les évangélistes rapportent que les foules écoutaient Jésus parce qu'il parlait avec autorité.
Avec autorité.
Je me suis souvent posé la question, mais d'où venait l'autorité de Jésus ? Et j'ai l'impression qu'elle venait justement de ce que vous venez de dire. Oui. C'est-à-dire que lui, quand il disait quelque chose, il n'y avait pas de décalage entre
de décalage,
sa vie
tout à fait,
et son enseignement. Et c'est ce que vous voulez vivre.
Voilà. Être légitime. ne pas avoir un message. Parce que, bon, il y a beaucoup de paroles. On entend beaucoup de paroles à la radio, bon, à la télé,
les médias aujourd'hui,
dans les médias, par écrit. Mais la parole de Dieu, c'est autre chose. Et ça doit être un autre son dans notre vie. Et la considérer autrement. Et je veux, par la grâce de Dieu, donc, que cette parole puisse être perçue, reçue comme véritablement comme étant la parole de Dieu et pas une parole quelconque. Et de vivre cette parole parce que c'est une épée à deux tranchants qui partage âme et esprit, jointure et moelle. Donc une parole qui pénètre, hein, qui transforme, qui corrige, qui guide. Et ce que je veux vivre par la grâce de Dieu.
Cette parole, vous la partagez de différentes manières. Je sais par exemple qu'il vous arrive d'être un prédicateur, de présenter des séminaires, des conférences.
Oui.
Vous donnez aussi des études bibliques
plus
personnelles.
Tout à fait. C'est un. Il y a beaucoup de demandes. Il y a des gens qui sont vraiment en souffrance et qui ont besoin d'une autre rencontre. Parce que on s'adresse à des foules, à des assemblées. Mais il y a des personnes dans ces assemblées qui sont seules. Et malgré la foule, se sentent seules et ont besoin d'être approchées. Et comme Jésus l'a fait, il a prêché à des foules, mais il a eu des rencontres à côté du puits. Il a eu d'autres rencontres où Nicodème est venu vers lui dans la nuit. Et je crois que dans ces rencontres, on peut approcher ces personnes qui ont besoin d'être... d'être touché par le Christ dans ce qu'ils vivent. Et ils peuvent partager des choses, ils peuvent exprimer des choses. Et depuis quelques années, j'ai beaucoup de plaisir à partager dans la semaine, soit à l'heure du déjeuner, ou avant le travail, ou après le travail, dans des bureaux avec des personnes qui ont besoin de rencontrer Jésus et de partager
dans
avec
un contact très personnel.
Un contact très personnel.
Alors,
très personnel.
Racontez-nous une ou deux histoires. J'étais intéressé tout à l'heure en préparant l'émission avec vous. Racontez-nous un petit peu certaines de ces histoires où Dieu a mis sur votre route des personnes justement qui avaient ce besoin et vous avez pu être un instrument.
Tout à fait. J'ai encore ce souvenir merveilleux d'une rencontre avec un homme qui... est venu à la maison pour réaliser des travaux avec son équipe et qui au fil des jours me parle de chiffres, me dit que ce qu'il fait, ça va coûter parce qu'il découvre d'autres travaux à réaliser. Et il m'annonce qu'il doit ajouter des équipes, il doit louer une nacelle, il doit faire des choses. Je lui ai dit, je suis obligé de faire, faites, allez-y.
Mais la facture.
Et quand je dis allez-y, je prie, je dis Seigneur, aide-moi parce que je ne sais pas comment je pourrais payer. Et donc je lui ai dit, écoutez, faites, vous savez, là la facture augmente et j'aurai certainement beaucoup de mal à vous payer. Il me dit, écoutez, on verra comment on peut s'arranger pour cela. Et quand il a achevé les travaux, donc, on a pris un rendez-vous à mon bureau où il s'est effectivement présenté. Et quand je l'ai vu, je m'apprête à prendre mon chéquier pour établir plusieurs chèques.
Pour faire un gros chèque.
Pour faire plusieurs gros chèques. Et il me dit, attendez, ne bougez pas, j'ai quelque chose à vous proposer. Je lui ai dit, allez-y. Et il me dit, mais vous serez surpris. Il dit, allez-y. Il me dit, écoutez, je vous propose de me bénir et vous m'avez réglé. Je lui dis, mais pardon? Il me dit, oui, c'est ça. Bénissez-moi. Bénissez ma maison, bénissez ma famille, mes enfants, bénissez-moi et vous m'avez réglé. Nous sommes quittes. Vous avez payé la facture. Je lui dis, mais c'est extraordinaire. Je vais vraiment vous bénir. Parce que là,
il y avait de quoi le bénir.
Voilà. Vous serez béni pour la somme. Et alors que je disais ces paroles, je me suis souvenu, mais Philippe, ce qui est important, c'est d'agir comme Jésus agirait, d'agir toujours dans la vérité, même quand les choses semblent être à notre avantage, mais agir dans la vérité. Et je lui ai dit, mais que vous serviez-il d'être béni par quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous avez peut-être entendu parler de Dieu, de Jésus, mais je pense qu'il est peut-être plus important, dans un premier temps, d'apprendre à le connaître et ensuite de mieux découvrir et apprécier les bénédictions qu'il veut pour vous. Et il a accepté de recevoir des études bibliques.
Il avait proposé de découvrir la Bible.
De découvrir, voilà, Jésus à travers la Bible. Il était très heureux avec son épouse. Et le week-end suivant, il était dans une assemblée avec des chrétiens où il louait, il adorait aussi le Seigneur. Et nous avons continué à partager. Et cet homme a changé de pays. Mais je sais qu'il il continue dans son cheminement avec le Seigneur.
Alors, il vous arrive aussi parfois dans votre parcours professionnel,
oui,
de créer une société,
oui,
une compagnie. Et là, vous avez aussi fait une expérience intéressante.
Oui, une très belle expérience, parce que des fois, quand on est jeune, bon, je ne suis plus, hein, mais quand on est jeune, on aspire à se réaliser, à s'accomplir, à gagner de l'argent, à s'établir, à construire sa maison. Et on se fait une idée sur ceux qui ont véritablement les moyens. Et on se dit ils sont heureux et on a envie d'être comme eux, de vivre les mêmes choses. Et effectivement, comme nous l'avons évoqué avant l'émission, j'ai eu l'occasion de vendre une société à un homme, un Français, très, très riche, et, connu de la France et d'ailleurs. Et lors de cette rencontre, donc j'arrive à Paris.
Donc il était intéressé par votre société.
Voilà, il était intéressé par, voilà.
Il voulait la
par
racheter.
Une société, il voulait la racheter. Mm-hmm. Une société qui avait 6 mois d'existence, une jeune société. Et il voulait acheter cette société. Donc je suis invité à Paris pour le rencontrer et négocier la vente de cette société. Et quand j'arrive dans son bureau de 200 mètres carrés, j'y trouve des conseillers, des avocats, et ils étaient au nombre de 7. Et j'étais vraiment gêné par...
C'était intimidant,
parce que ça ne rigolait pas. C'était très froid, très, très sec. Et donc j'ai demandé à ce que
qu'on détende l'atmosphère.
Ils ont accepté, ils ont rigolé un peu. Et j'ai pu parler librement de mon projet. Et la discussion n'a pas duré un quart d'heure. Parce que cet homme riche, le président du groupe, il s'est levé et il a dit, écoutez, monsieur Fagy, je suis d'accord. Et il m'a tendu la main et il a demandé aux avocats, ses techniciens, de nous laisser parce qu'il voulait qu'on soit deux.
D'être restés tous les deux.
Voilà, tous les deux. Et à cet instant, cet homme, il m'a surpris parce qu'il me pose la question, maintenant que nous sommes deux, dites-moi, qui êtes-vous? Je lui ai dit, mais je suis Philippe-Pierre Jules. Oui, ça je sais. Mais qui êtes-vous? Je ne comprends pas très bien la question. Dites-moi qui vous êtes. Je veux savoir qui vous êtes. Parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me regarde dans les yeux et où j'ai le sentiment de ne rien changer à sa vie, à son existence. Je lui ai dit non. Je lui ai dit oui, ça ne change rien. Parce qu'il a quelque chose de plus important. Je le sens en paix. Alors que bon, autour de moi, j'ai des personnes qui baissent la tête, ou quand ils me fréquentent, j'ai le sentiment qu'ils sont à côté de moi pour profiter un peu de ma fortune. Et des choses que je ne dirai pas ici, mais cet homme était très malheureux. Il exprimait sa souffrance, une grande souffrance. Et il m'a dit, mais Monsieur Ferjul, je vous envie. Je vous envie. Mais j'ai omis de vous dire que cet homme, quand il a insisté sur la question, je lui ai dit, écoutez, bon, je suis chrétien, adventiste du septième jour. Il me dit, mais c'est quoi ça, cette affaire d'adventiste? Je lui ai dit, bon, vous connaissez un peu le judaïsme? Il me dit, oui, bon, je vois très bien. Voilà, mais c'est le judaïsme, mais nous avons accepté Jésus comme étant le Messie.
La foi en Jésus-Christ.
La foi en Jésus-Christ. Et il m'a dit, d'accord, ok, très bien. Et nous avons, il m'a dit, bon, vous faites quoi? Je lui ai dit, bon, j'ai cité quelques principes
bibliques.
Et il était très intéressé par la discussion. Et cet homme a véritablement exprimé une grande souffrance. Et quand il m'a dit, bon, je vous envie, je lui ai dit, bon, écoutez, bon, moi, je veux bien aimer être à votre place aussi, avoir l'argent que vous avez. Il m'a dit, non, mais je crois que vous avez plus que cela. Et quand ce monsieur m'a proposé, justement, de rester dans la société, que je lui ai dit ce que je souhaitais avoir comme revenu, il m'a dit, écoutez, je ne peux pas vous donner cela, c'est trop peu. Et il m'a dit, maintenant, demandez-moi ce que vous voulez. Ce que vous voulez, je vous le donne. Demandez-moi. Je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas de grands besoins, monsieur. Si j'ai besoin de très peu pour me satisfaire, parce que le contentement, je l'ai déjà. Et cet homme a été vraiment touché par ce témoignage. Et moi aussi, j'ai été touché. Parce que j'ai réalisé une nouvelle fois ce jour-là que c'est vraiment la bénédiction de l'Éternel, on le redit, qui enrichit. Parce que cet homme, il avait tous les trésors, peut-être à sa portée, les trésors de ce monde, sa fortune, mais il était malheureux dans sa famille, dans ses relations avec ses enfants, dans ses relations, dans son entreprise. C'est un homme très malheureux et qui m'a sollicité encore plusieurs fois pour des rencontres, pour échanger, pour que je lui parle du Seigneur, que je lui dise ce que je vis. Et une fois, dans son au siège, à son bureau, je suis arrivé à 15h de l'après-midi. C'est un homme très occupé. Et quand je suis entré dans son bureau, il a demandé à la secrétaire, écoutez, ne nous dérangez pas. Je n'accepte aucun appel, aucune personne, ne nous dérangez pas.
Et besoin d'un temps.
C'est ça.
Pour entendre autre chose.
Pour entendre autre chose, tout à fait. Et je l'ai laissé à 20h. À 20h, nous avons échangé l'après-midi sur la vie, sur Jésus, sur ce que je vivais, je lui ai parlé de... J'ai failli dire de ma pauvre vie, mais de cette belle rencontre avec le Seigneur. Et cet homme, je crois, le Seigneur a placé un chemin dans son cœur. Et je sais qu'il a cheminé vers d'autres valeurs que l'argent. Et j'espère qu'il continuera avec cette route que le Seigneur a tracée dans son cœur.
Jusqu'à trouver lui aussi le chemin du bonheur et de la vie éternelle.
Tout à fait.
Il y a beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous, riches ou pauvres, qui sont dans cette situation où ils se rendent compte que le matérialisme ne peut pas satisfaire le cœur humain, que les plaisirs, ça va un temps, mais que ça n'apporte pas non plus la vraie satisfaction.
Ouais.
Il y en a beaucoup autour de nous. Et j'ai compris que votre but dans la vie, c'est d'être un instrument entre les mains de Dieu pour atteindre ces gens-là.
Tout à fait. J'ai compris un texte de la Bible où l'apôtre Paul dit aux Colossiens, Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus. C'est inscrit, c'est marqué. Il a voulu que toute plénitude, toute joie, tout contentement, tout plaisir, tout est inscrit en Jésus. Il a voulu que tout cela habite en Jésus et nulle part ailleurs. Donc je crois que celui qui est la source de la vie, celui qui donne la vie, celui qui me donne la vie, si je l'ignore, si je le rejette, si je le méprise, je ne peux pas connaître la vraie vie. Mais si je veux composer avec lui, si je suis le programme qu'il veut pour moi, le programme qu'il a préparé pour moi, eh bien, je crois que ma vie ne peut être que meilleure, dans la simplicité, dans la joie, dans le contentement, mais surtout de me préparer à cette grande rencontre, je ne dis plus physique, mais visuelle, de le voir tel qu'il est. Et j'ai vraiment envie que ce jour arrive pour être avec lui et tenir et dire combien il m'est cher et combien je l'aime.